liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 25, année 2015. Salut Magali.
Salut Luc.
Eh bien, Manu et Nicolas ont fait défection.
Ah, c'est des lâcheurs.
Voilà, c'est l'été qui arrive, ils ont pris un peu d'avance. Et donc, tu vas faire la revue de presse avec
voilà.
Moi, juste nous deux.
Je me sacrifie.
C'est bien. Donc, la revue de presse quand même faite par Manu, parce qu'il a beau être en vacances, plus ou moins vacances, il nous a quand même concocté la revue de presse. Donc, ça va parler de makers, ça va parler d'open source et d'administration et du CNN ou CNNUM, d'enseignement de l'informatique à l'école, d'ordinateurs de récupération mis avec du logiciel libre, un article sur le logiciel libre, Richard Stallman et notre super loi de surveillance, un article également sur la loi sur le numérique qui se fait attendre, on en parle régulièrement, et pour finir, quelque chose sur Futur en scène, un événement qui s'est passé il y a peu de temps. ZDNet France, descente dans les forges des makers, un article de Frédéric Charles. Donc les makers, c'est tous ces gens qui utilisent des technologies numériques pour faire des prototypes, innover. Et là, ça parle essentiellement d'un lieu qui se situe à Paris.
Oui, qui se passe pas loin de chez nous en fait, qui s'appelle Usinio. Et donc ils appellent ça un Fab Lab, fabrication laboratoire, ça vient des États-Unis. Mais on va aussi parler de plusieurs Fab Labs de La Fonderie, qui est une association assez connue. Ils parlent aussi de matériel, d'imprimante 3D, de faire ça c'est bien, mais en plus serait mieux si on utilise des logiciels libres. Donc c'est un article assez intéressant. Moi ça m'a donné envie d'y aller en fait.
Oui, alors en fait ce lieu en fait est assez particulier dans le monde des Fab Labs. C'est souvent les Fab Labs sont destinés à faire de la pédagogie pour que les gens puissent découvrir. Celui-là est vraiment destiné aux gens qui ont un projet professionnel, donc soit qui montent une entreprise, ça peut être ouvert aux particuliers, mais dès lors qu'ils ont vraiment un projet pour faire aboutir quelque chose, et voilà, l'idée c'est plus un incubateur. Et on n'est pas vraiment dans le libre, mais il y a cette idée de que les gens se rencontrent, travaillent ensemble. Donc l'idée, hein, c'est que dans ce genre de lieu, ils accèdent à des machines qui pourraient pas se payer par eux-mêmes. Et en même temps, c'est le moyen de se croiser, de mettre ensemble des gens qui ont des compétences complémentaires. Silicone.fr, open source et administration, le CNNUM rallume l'incendie. Un article de Reynald Fléchot. Là, ça reparle d'informatique. On rappelle le CNNUM. Est-ce que, Magali, tu vois ce que c'est?
Le Conseil National du Numérique.
Voilà, donc c'est une institution qui avait été mise en place sous le nom de CNN par Sarkozy, qui était quelque chose de très très orienté entreprise, il n'y avait que des entrepreneurs là-dedans, et c'est censé être en gros un truc qui devait conseiller le gouvernement sur les questions numériques. Hollande l'a gardé, mais élargi un petit peu le panorama en mettant notamment des représentants de la société civile, et là, ils prennent une position très en faveur du libre.
Et en gros, ils donnent la priorité aux solutions libres et open source.
Voilà, donc ils incitent le gouvernement à prendre cette position-là.
Voilà. Alors forcément, on a les mêmes zozo qui crient à l'inadmissible, comme le syntaxe numérique, ou comme...
L'AFDEL,
surtout, oui, qui en fait veulent continuer à remplir les poches des grosses entreprises comme Microsoft. Donc, ben, nous, à l'April, on est contents. Hein. On soutient cette priorité au logiciel libre et on espère que ben, ça va perdurer dans l'administration.
Alors, on s'est souvent demandé à quoi servait le CNNUM. Et ben voilà, on a une réponse. En tout cas, ils ont pris une décision bien tranchée. Il n'y a pas que des gens du logiciel libre dedans, loin de là. Mmh. Donc, c'est assez intéressant. Et effectivement, dans les gens qui critiquent, bon, l'AFDEL, c'est vraiment le bras armé de Microsoft. Du côté du syntaxe numérique, ils sont également. Alors, il y a aussi des PME hein, qui font du proprio et qui notamment les sites vivent dans l'ombre de Microsoft ou d'Oracle. Mais c'est assez rigolo parce que cette question de la priorité au logiciel libre, elle est déjà actée puisque le Conseil d'État avait dit qu'il était tout à fait légal pour des collectivités de faire de la préférence au logiciel libre dans leurs appels d'offres, etc. Donc ils ont l'air de se réveiller. C'est évidemment complémentaire avec ce qui se fait au niveau de la DISIC. C'est en gros les services informatiques. Il faut bien se douter que l'État n'est pas un monolithe. Hein. Il y a des gens pour, des gens contre. Et on voit qu'en train de se friter de ce côté-là. Quoi.
En tout cas, moi, exiger l'interopérabilité, les standards ouverts et l'accès au code source, ben, c'est un beau progrès.
Mademoiselle, faut-il apprendre à coder aux enfants? Une conférence pertinente sur une problématique d'actualité. Un article de Sarah Bosselli.
Oui, parce qu'en fait, le 18 juin, il y a eu un livre qui est sorti qui s'appelle Scratch pour les enfants, qui est sorti aux éditions Erol. Ils ont fait une grande soirée à Mozilla. Bon, j'étais pas invitée malgré le fait que je sois libraire, mais bon, c'est pas grave, je me suis pas vexée.
Mal, hein, oui.
Non, je me suis pas vexée. Bon, je suis pas du genre à me vexer. C'est pénible de se vexer. C'est fatigant, ça crée des migraines, tout ça. Bref, belle soirée, beaucoup de monde invité. Et la question, est-ce que on apprend aux enfants enfants à coder dès le plus jeune âge. Mmh. En gros, le livre est fait pour les enfants de 8 ans, mais dans l'administration, l'éducation, tous les profs ne sont pas forcément formés à l'apprentissage.
À l'enseignement de l'informatique. Donc c'est effectivement quelque chose qui est abordé dans cet article. Bon, il est intéressant que ce soit sur Mademoiselle, parce que c'est pas du tout quelque chose qui parle, un site qui parle d'informatique. Donc c'est intéressant qu'il l'aborde là-dedans. Effectivement, la question pertinente, c'est comment on met ça en place. L'article cite des plans informatiques par le passé, où c'était en gros les profs de maths qui faisaient, mais qui n'étaient pas nécessairement formés pour ça.
Les profs de techno.
Et qu'effectivement, se mettre à enseigner aux enfants, c'est une très très bonne chose, hein, c'est une informatique, mais que à mettre en place, humainement, c'est pas simple. Voilà, donc Scratch, hein, si ça vous intéresse, c'est un langage de programmation pour l'initiation. Et donc c'est un livre qui permet de s'y mettre.
Ça permet aussi de construire des petits jeux tout simples pour les enfants. C'est vraiment apprendre en s'amusant, ce que je conseille très souvent à mes petits clients qui veulent s'intéresser à l'informatique. Ne pas hésiter à acheter le livre. Hein. Je répète, Scratch pour les kids, 8 ans, chez Erol.
UP, ordi partagé, ordi libéré, un article de Jeanne Laprairie.
Alors, très belle initiative hein, qu'on retrouve à pas mal d'endroits en France. En gros, c'est Naga, une association à Nantes qui récupère des vieux PC bien dépassés, qui n'arrivent plus à tourner, très ralentis, et qui leur met des systèmes d'exploitation et des logiciels libres. Et là, oh, miracle, l'ordinateur marche très bien, il a l'air comme neuf, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et après, c'est revendu pour une somme modique. Alors, il y a une dame qui a dit qu'elle payait 40 euros son ordinateur, mais quand on voit le prix réel dans les grandes surfaces, face, on se dit que 40 euros, c'est vraiment pas cher.
Oui, c'est une association, mais il y en a pas mal. Récemment, on en parlait d'une autre là qui est du côté de Saint-Nazaire. Ça se fait un petit peu partout en France. Je crois savoir que dans le coin du sud de la Bretagne, il y a des gens très actifs et il y a plusieurs associations qui sont montées, qui sont toutes liées les unes aux autres. Hein, c'est des gens qui se connaissent. Et derrière, il y a des emplois, puisque là, ils sont cités dans l'article. Il y a quand même des gens qui travaillent là-dessus. On est clairement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, dans l'idée du développement durable, avec notre pilier. On en parlait récemment. C'est un sujet qui est assez à la mode, manifestement, avec le côté environnemental. Puisque un vieil ordinateur qu'on continue à faire marcher, c'est un nouvel ordinateur qu'on n'achète pas et qu'on produit pas. Un pilier économique, puisque on fait travailler des gens, on crée des emplois et on permet aux gens d'accéder à l'informatique pour pas cher. Et voilà, un pilier social, puisqu'on permet à des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à l'informatique.
Et du coup, c'est un ordinateur qu'on ne jette pas et qui n'ira pas polluer, en tout cas pas tout de suite.
Contrepoint, le mouvement du logiciel libre, Sentinelle des libertés en ligne, un article de Farid Gham. C'est une sorte d'article assez général sur le logiciel libre, sur Stallman.
Sur Stallman en particulier, puisque là on n'est plus que dans le logiciel libre, puisqu'il parle des malwares de Microsoft, Apple et Facebook, il parle des data qui t'espionnent, il parle de tous les sujets connexes du logiciel libre et pas que du logiciel libre. J'ai même appris qu'ils allaient faire quelque chose d'intéressant à la FSF. Ils sont en ce moment en train de travailler sur la création d'un système de paiement en monnaie numérique, le GNU. Je suis impressionné, je ne m'attendais pas du tout à ça d'eux.
Effectivement, c'est dans la lignée hein, du Bitcoin qui a un certain succès. Je ne connais pas tout le projet, j'espère qu'ils éviteront les écueils du Bitcoin, qui serait pas mal.
Et comme d'hab, ils parlent de liberté, égalité, fraternité, ils parlent de récupération de ses propres données, ne pas les mettre chez n'importe qui, enfin, du grand Stallman fait par un
Et notre un terrible fanboy. Loi de surveillance. Donc bon, l'article est bien fait, à voir si on ne connaît pas bien le sujet. Par contre, bon, on n'y apprendra pas grand-chose de nouveau si on est déjà rompu au libre et à la parole de Richard Stallman. L'Obs, Axel, ma sœur Axel, ou la lente gestation de la loi sur le numérique, un article d'André Afradin et de Rémi Noyon.
Ça devient une blague, cette loi sur le numérique. Ça fait combien de temps qu'on l'attend maintenant ?
Je pense que ça ne doit pas faire loin de
2013, hein ?
Oui, en gros, elle a été évoquée pendant la campagne présidentielle.
Oui, Jean-Marc Ayrault aussi en avait parlé.
L'article est pas mal parce que c'est une sorte de résumé des épisodes précédents et qui explique un peu le dessous des cartes, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça avance pas. C'est que manifestement, à part Ayrault à son époque et
le maire maintenant,
personne n'en veut, ça ennuie tout le monde dans les ministères, ça les intéresse pas et ils veulent pas bouger. Quoi.
J'adore la phrase, on a du mal à ramasser les copies, comme si les ministres étaient des mauvais élèves qui voulaient pas rendre leurs devoirs. Ça génial. Les buts de la loi au départ, c'est accroître la protection des données personnelles, trouver une solution miracle pour faire de la France un terreau de Google de demain, renforcer la cybersécurité, mais finalement je crois que le plus important pour eux, c'est de soumettre les géants du net à l'impôt. Ce serait
cool
de récupérer la thune.
Ça, c'est peut-être le seul truc qui avance, parce qu'effectivement, il y a des choses qui se passent un peu de ce côté-là. Et puis, l'autre problème, c'est cette loi de surveillance qu'on vient de nous voter. Du coup, c'est un peu difficile de se lancer dans une super loi du numérique qui parle de neutralité du net, qui parle de protection des données personnelles, ce genre de choses. chose quand on vient de faire une espèce de bouse infâme qui est très exactement l'inverse de tout ce qu'on prétend protéger.
À tel point que même notre ministre a l'impression d'être la bonne élève, mais qui veut démissionner.
Elle se serait posée la question.
Elle va, plusieurs fois, quoi, tous les jours, la pauvre. Je ne devrais peut-être pas dire la pauvre, mais c'est vrai qu'on nous la présente comme une pauvre secrétaire d'État qui est empêchée de faire son travail par tous les autres ministres qui lui mettent des bâtons dans les roues ou qui lui prennent les dossiers comme le ministre de l'Intérieur et de la Défense.
Donc voilà, donc ce poste est un peu maudit, hein, s'occuper de numérique, puisque Fleur Pellerin avant elle avait également ramé dans le désert, et donc on se dit que c'est pas prêt d'avancer toute cette affaire-là. Voilà. Quoi.
Ça risque même de lui passer sous le nez, puisque ça se rappellerait plus la loi Le Maire, mais la loi Macron V2. Bon, non, je troll. Mais bon, dans l'article, ils en parlent aussi, donc peut-être une récupération par un autre ministre.
IT Espresso, futur en scène 2015, carrefour du crowdfunding et des monnaies virtuelles, un article de Clément Bolic.
Ah, j'aime bien futur en scène, je me rappelle. Avec l'April et Parinux, on avait tenu un petit stand, histoire de parler et de prêcher la bonne parole. Et puis on était entouré de plein de nouvelles technologies incroyables. Il y avait un robot, il y avait aussi un vieux Minitel qu'ils avaient réparé. Bref, c'était vraiment sympa comme petit salon, festival. Là, le thème, c'est surtout le crowdfunding et les monnaies virtuelles.
Bon, la monnaie virtuelle, déjà, ça me fait un petit peu rigoler, parce que toute monnaie est quand même virtuelle aujourd'hui. Voilà, on a un peu arrêté la monnaie sonnante et trébuchante. Hein. Les pièces d'or, ça se fait plus trop. Donc là, évidemment, on parle du Bitcoin et également des autres éléments. Alors, ce que je trouve intéressant dans cet article, on l'avait déjà évoqué ces dernières semaines, c'est qu'il parle du blockchain comme étant l'élément vraiment intéressant dans le Bitcoin.
Ouhou.
Donc le blockchain, on le rappelle, c'est cette technologie qui s'appuie sur du chiffrement et qui permet en gros d'enregistrer toutes les transactions, tous les éléments. Et c'est un fichier public qu'on ne peut pas bricoler, bidouiller. Et donc ça permet d'enregistrer toutes les transactions, tous les échanges de façon publique. Et en fait, c'est une solution, une méthode qui est très originale, assez intéressante et à centrer.
C'est surtout que ça empêche l'intervention d'autorités centrales telles que les banques, comme on connaît. Donc.
La blockchain peut être utilisée dans plein d'autres choses hein, que la monnaie. Ça peut être utilisé également... voilà, sur des échanges d'informations. Puis après ça, on retrouve les thèmes habituels d'impression 3D, de smart data, enfin tous les machins à la mode habituelle. Quoi.
Il y a quand même un petit quelque chose qui m'a fait plaisir et en même temps peur, c'est qu'il parle du Blue Robotic, donc ce petit robot qui sera dans tous les ménages français dans quelques années, qui aurait comme particularité de reconnaissance vocale, ça c'est normal, mais aussi d'encourager la reconnaissance faciale. Donc si tous les petits robots peuvent nous reconnaître facialement, l'avantage ça fait rêver, waouh, génial, on a un robot qui nous reconnaît, mais après il en fait quoi des données?
Alors c'est la question, hein. L'idée de ce genre de petit robot, on sait qu'intervalle régulier, c'est des trucs qui arrivent à la mode, hein, vu le Nabastag il y a quelques années, et l'idée c'est d'envoyer des informations un peu personnalisées, le robot reconnaît la personne, évidemment derrière il y a un système informatique, et on peut s'attendre à ce que tout ça soit traité à l'extérieur, un peu comme la télé connectée de Samsung faisait, hein, puisqu'il y a une commande vocale et que toutes les infos étaient enregistrées, transcrites sur un serveur quelque part en Corée, hein, donc tout ce qu'on pouvait enregistrer dans votre salon, avec la télévision, et tout ça était enregistré, transcrit à l'extérieur, et on risque d'avoir un truc un peu de ce type-là.
Ça me rappelle une conférence qu'on avait fait tous les deux, ça, Luc.
Non, je ne me souviens pas. Je nie tout en bloc. Très bien. On a fait le tour hein ?
On a fait le tour.
Eh bien, merci à toi, Magali.
Merci, Luc.
Et on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera probablement la dernière avant l'été. Et ensuite, on prendra un peu de repos.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fiévet et Nicolas Vineau.